Bonjour à tous. Ce n'est pas une simple formalité pour Catherine et moi d'exprimer notre joie d'être avec vous ce matin. C'est du fond du cœur. Nous sommes heureux de partager ce culte avec vous. Juste un petit souvenir, nous étions au départ de l'église du Rocher et nous faisions partie du petit groupe qui a construit ces locaux. Ça nous paraissait très grand à l'époque quand on a construit ici il y a une trentaine d'années. Alors on a une grande joie de voir ce grand bâtiment pousser à côté. Peut-être que dans 20 ou 30 ans, vous direz, ah, ça nous paraissait ce soir encore, j'ai entendu dans le domaine du théâtre, dans le domaine de l'entreprise. Il y a aussi des histoires. Est-ce que la Bible parle des abus sexuels? La réponse est oui. La réponse est oui. Et donc ce matin, notre but, c'est de prendre un éclairage biblique sur le problème de l'abus sexuel. Notre but aussi, c'est de chercher guérison, pardon auprès de Jésus-Christ. Notre but aussi, c'est de faire de la prévention. Et notre but, c'est de nous orienter, comme toujours, vers Jésus-Christ. Et j'ai prié aussi que cette prédication puisse tourner nos yeux à nous, tout à nouveau vers Jésus-Christ. Donc nous allons faire une lecture biblique. J'ai demandé à mon épouse de la faire. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 13, donc nous sommes que quatre chapitres après le magnifique histoire que Jean-Marie nous a lu tout à l'heure. Donc c'est l'histoire d'un viol de Tamar, fille de David, par son demi-frère Amnon, donc fils de David. De Samuel au chapitre 13, Catherine va lire les 22 premiers versets.
Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Amnon avait un ami du nom de Jonadab. C'était un fils de Shimea, le frère de David, et un homme très rusé. Il lui demanda, « Pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu? Toi qui es un fils de roi, ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à ma sœur Tamar de venir me donner à manger, qu'elle prépare un plat sous mes yeux afin que je le voie et qu'elle me serve elle-même à manger. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit, « Que ma sœur Tamar vienne donc faire deux gâteaux sous mes yeux et qu'elle me les serve elle-même. » David fit dire à Tamar dans ses appartements, « Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. » Tamar alla chez son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte à pétrir, prépara des gâteaux devant lui et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle et les déposa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte-moi le plat dans la chambre et sers-moi. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux, où irais-je moi à traîner ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi, et il ne m'empêchera pas d'être à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle, et il la viola. Il coucha avec elle. Puis Amnon éprouva de la haine envers elle, une haine plus forte encore que ne l'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en !» Elle lui répondit, « Non, ne me manque pas en me chassant le mal que tu m'as fait. » Il refusa de l'écouter. Appelant le garçon qui était à son service, il dit, « Qu'on fasse partir cette femme de chez moi, qu'on la mette dehors et ferme la porte derrière elle. » Elle portait une robe de plusieurs couleurs. C'était en effet la tenue que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la fit sortir et ferma la porte derrière elle. Tamar déversa de la cendre sur sa tête et déchira sa robe multicolore. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit, « Est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi ? Maintenant, ma sœur, garde le silence, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar s'installa accablée chez son frère Absalom. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar.
Merci. Chapitre un peu bizarre, n'est-ce pas? On va commencer par regarder les quatre personnages principaux de cette histoire. Amnon, le violeur, Tamar, la victime, Absalom, le frère de Tamar, et David, le père. Commençons par Amnon. Amnon est un proche, un demi-frère. Les abus sexuels se passent le plus souvent dans le milieu familial ou de la part de quelqu'un qui connaît la personne abusée. Donc on met en garde nos enfants contre l'étranger dans la rue qui leur propose un bonbon ou de venir voir des chiots dans sa voiture, et nous faisons bien. Mais nous devons aussi mettre nos enfants en garde contre, des fois, des personnes qui ont autorité sur eux dans un club de sport, dans une église, dans la famille. Ils doivent être avertis par rapport à ces choses. Nous sommes ici dans une histoire terriblement typique. Amnon a un très mauvais conseiller. Son cousin, Jonadab, on reste en famille hein, dans cette histoire. Jonadab va l'aider, en fait, à piéger sa demi-sœur. Donc, quand vous avez une peine de cœur, choisissez bien vos conseillers. Parlez-en à quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui peut vous donner un conseil qui vient de la parole de Dieu. Pas quelqu'un forcément qui va aller dans le sens des poils. Amnon surtout confond amour et désir. Amour et convoitise. Il est malade d'amour. Mais vraiment, c'est très fort en lui. Il aime, il pense aimer sa demi-sœur. Mais dès qu'il a eu ce qu'il voulait, son amour se transforme instantanément en haine. Et il la chasse et fait claquer la porte derrière elle. C'est bien la preuve que ce qu'il expérimentait n'était pas l'amour, mais la convoitise, tout simplement. Alors comment distinguer entre amour et convoitise? Dans la parole de Dieu, nous avons une super définition de l'amour dans 1 Corinthiens au chapitre 13. L'amour est patient, par exemple. L'amour est patient. Si quelqu'un, je m'adresse aux jeunes, mais au moins jeunes aussi, si quelqu'un nous met de la pression pour avoir des rapports sexuels, ce n'est pas l'amour. Amour et pression, ça ne va pas ensemble. Autre définition d'amour dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne fait rien de malhonnête. Alors que Amnon et son cousin vont ruser, piéger. Si pour attirer quelqu'un, on doit mentir ou manipuler, ce n'est pas non plus de l'amour. C'est de la convoitise. Amnon est un homme de pouvoir. C'est le fils du roi. C'est le fils aîné du roi. Ce qui fait de lui le dauphin. En gros, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Et malheureusement, abus sexuel semble aller souvent avec pouvoir. dans toutes ces situations qu'on a dans les actualités, un producteur de cinéma qui a le pouvoir sur la jeune femme qui cherche un travail, etc. Et quelqu'un comme un pasteur, un responsable d'église, a un certain pouvoir aussi, ou un instituteur, ou ainsi de suite, la liste peut s'allonger. Parfois, dans la tête d'un jeune, ça mène la confusion. Quand j'étais lycéen au Canada, je pense que j'avais 14 ans, il y a eu une histoire dans notre lycée, une fille de ma classe, je me rappelle, elle s'appelait Hélène, qui a eu une affaire avec le prof de gym. Donc elle, 14 ans, le prof, c'était un jeune prof, je me rappelle bien de sa tête, mais peut-être avait-il 30 ans, je ne sais pas. Mais vous voyez le rapport de force entre un prof et une élève de 14 ans, un adulte, un enfant. D'ailleurs, dans la loi aujourd'hui, on a enlevé la notion de consentement pour tous les jeunes en dessous de 15 ans. Je trouve que c'est une bonne chose, parce que l'enfant de 14 ans n'a pas de discernement par rapport à ces choses. Et nous avons eu encore récemment dans notre entourage le témoignage d'une jeune femme qui, à l'âge de 14 ans, a été séduite par un adulte et qui pensait en fait dans sa tête être consentante. Et avec le recul, elle se dit, mais en fait, je ne savais pas du tout où j'habitais à cette époque-là. Passons à Tamar. Tamar est jeune, probablement, elle est vierge. À l'époque, on mariait les jeunes filles très, très jeunes, donc elle est probablement mineure, mais on ne le sait pas. C'est une jeune fille naïve. Ce jour-là, elle est envoyée par son père faire une bonne œuvre auprès de son frère qui est malade. Et en l'espace de quelques minutes, sa vie va basculer. De l'enfance, elle va passer dans l'âge adulte. De l'insouciance, elle va passer à l'accablement. D'un avenir rose de princesse, elle passe à un avenir sans avenir. Du rêve au cauchemar. Et son corps qui a une mémoire sexuelle, comme tous nos corps ont une mémoire sexuelle, est marqué de manière indélébile. Elle ne l'oubliera jamais, cet événement. Et on n'oublie jamais un abus sexuel. On n'oublie pas nos expériences sexuelles. Elle a maintenant un deuil à faire, un deuil terrible. Elle déchirera sa robe, elle criera, elle mettra des cendres sur sa tête. Ce deuil durera, je pense, bien longtemps pour elle, parce qu'elle est très mal entourée. Très mal entourée. Parlons un peu de son entourage. Parlons d'Absalom. Donc Absalom, c'est le vrai frère de Tamar. Amnon, c'était son demi-frère, David, ayant eu plusieurs femmes. Qu'est-ce qu'il lui dit? Quel est le conseil qu'il donne à sa sœur? Vous vous rappelez dans le texte? Garde le silence. Garde le silence. Le plus mauvais conseil qu'on puisse donner à quelqu'un dans cette situation. Elle a besoin de crier son désespoir, de son injustice. Elle a besoin de conseils, elle a besoin de parler, de prier avec quelqu'un. Garde le silence. Pourquoi? Garde le silence car, vous vous rappelez dans le texte, c'est ton frère. Garde le silence car c'est ton frère. On est dans un système familial. Et dénoncer le frère, c'est dénoncer le dauphin du roi. C'est casser un truc, c'est casser une dynastie. Et c'est malheureusement trop similaire à bien des situations d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a été abusé par un oncle, un grand-père. Il n'y a pas que des hommes qui commettent des abus aussi, abusés par une femme. Dénoncer cette personne, c'est souvent casser une famille. C'est envoyer quelqu'un en prison. C'est enlever le gagne-pain de la famille. c'est amener la honte sur une famille ou amener la honte sur une église. Vous voyez la difficulté de la personne abusée. Et bien souvent, nous avons des personnes dans notre entourage comme ça qui n'arrivent pas à dénoncer la personne qui les a abusées à cause de tout ce système qui est en place. Pourtant, selon la parole de Dieu, c'est la vérité qui libère. La vérité de l'évangile, bien sûr, mais la vérité tout court aussi. Et Dieu ne peut pas honorer un système qui cache le péché. Mais la victime a parfois la double peine. D'abord la peine de l'abus, et puis la peine de devoir protéger par son silence le coupable, pour sauver le coupable et la famille. Il lui donne un autre conseil, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le texte, Absalom dit « Garde le silence car c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Ce n'est pas trop grave, il n'y a qu'à oublier. Il minimise ce qui est arrivé. Alors que nous le savons aujourd'hui, en tout cas, que ce sont des expériences traumatisantes au plus profond de notre être. Alors il se trouve que quand même Absalom va se venger. Si vous continuez la lecture, deux ans plus tard, parce que la vengeance est un plat qui se mange froid, n'est-ce pas ? Deux ans plus tard, il attire Amnon dans un piège et il va tuer Amnon. Je me permets de questionner un peu les motivations d'Absalom. Est-ce que c'est vraiment pour venger sa sœur ? Ou est-ce que ça révèle aussi le soif de pouvoir d'Absalom ? Parce qu'Absalom aussi est fils de roi. Et entre lui et le trône, il y a son frère aîné, Amnon. Donc ça l'arrange bien aussi d'éliminer Amnon. Plus tard, il essaiera d'éliminer même son père, David. Donc vous voyez qu'on peut questionner un peu les mobiles d'Absalom. Est-ce que c'était vraiment pour sa sœur ? Il nous reste un personnage à voir, David. David est dans l'histoire. Il se laisse embobiner un peu par Jonadab et Amnon. Il est informé de ce qui se passe. Il est dit dans le texte, David apprend tout ce qui s'est passé et il fut très irrité. Point. La traduction qu'on appelle Septante, c'est une traduction grecque qui a été faite du texte hébreu deux siècles avant Jésus-Christ, a une phrase supplémentaire dans le texte qui n'est pas venue dans nos Bibles, qui sont traduites plutôt de l'hébreu. David fut très irrité, il ne fit cependant aucun reproche à Amnon, car c'était son fils aîné, donc héritier du trône, et il l'aimait beaucoup. Où est le roi ? Où est le juge d'Israël ? Où est le père ? Le père. C'est une autre facette de la vie de David par rapport au texte que nous avons lu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce texte biblique ? Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il n'y a aucun reproche fait dans le texte. Alors pourquoi est-ce que ce texte est dans notre Bible ? Comment est-ce qu'on va interpréter ça et appliquer ça ? J'aimerais nous donner deux pistes. La première, c'est d'observer le contexte. Le premier verset, chapitre 13, verset 1, dit « Après cela, voici ce qui arriva. » Après quoi ? Après le péché sexuel de David, l'adultère avec Bathsheba, meurtre du mari de Bathsheba, Nathan sera envoyé par Dieu convaincre David de péché. Et merci Seigneur, David va reconnaître son péché et confesser son péché et se repentir. Et Dieu va pardonner à David. Mais quand Dieu pardonne, il n'enlève pas forcément les conséquences de nos actes. Et Nathan dira à David au chapitre 12, « Désormais, puisque tu m'as méprisé, » enfin c'est Dieu qui parle à David par la bouche de Nathan, « Désormais, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urilitite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. » Et tout de suite après cette histoire, nous avons en cascade la catastrophe dans la famille de David. Donc, je dis que oui, le texte condamne ce qui se passe ici et montre que c'est quelque part une suite des péchés du père qui infecte les enfants et qui se répercute sur parfois des générations, comme la parole nous le dit. Il y a une deuxième piste pour comprendre ce texte. On a vu le contexte proche. Maintenant, on va le placer dans le contexte de toute la Bible. Je ne sais pas si Aurélien, dans ses prédications, vous parle de la théologie biblique. Mais dans la théologie biblique, on dit qu'on peut résumer tout le message de la Bible avec quatre mots. Deux qui commencent avec C et deux qui commencent avec R. C'est création, premier mot. Deuxième mot, c'est chute. Troisième mot, rédemption. Et quatrième mot, restauration. Avec ces quatre mots, vous pouvez caser toutes les histoires de la Bible. Toutes les histoires de la Bible vont se raccrocher à un de ces mots et s'insérer dans ce qu'on appelle l'histoire du salut, l'histoire de la rédemption. Donc, on va prendre quelques minutes pour appliquer cette théologie biblique à la sexualité biblique. C'est création. Au départ, Dieu crée l'homme et la femme avec leurs organes sexuels, et il dit que c'est bon. Quand Adam et Ève ont eu leur première relation sexuelle, Dieu ne s'est pas retourné en disant « Mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qu'ils me font ?» Il se réjouit, le Créateur. Il dit « C'est beau !» Et dans le cas de cette alliance, ce premier mariage d'Adam et Ève, ils sont tout nus et sans honte et dans une relation respectueuse l'un de l'autre sous le regard de Dieu. Et la sexualité est une bonne chose. La femme n'est pas l'objet sexuel de l'homme, elle est la vis-à-vis et l'aide. Adam est leader serviteur de son épouse, la mettant en premier. C'est chute. Adam et Ève choisissent de se libérer en quelque sorte du règne de Dieu sur eux et décider pour eux-mêmes ce qui est le bien et le mal. Et la première conséquence, une conséquence immédiate, c'est de se rendre compte de leur nudité. Donc ça les affecte quelque part dans leur sexualité. Et d'introduire dans le couple l'accusation mutuelle, c'est lui, c'est elle, etc. Ils vont se cacher de Dieu et Dieu leur explique que parmi les conséquences de leur péché, il va y avoir la domination de l'homme sur la femme. Ce n'est pas que Dieu invite Adam à dominer sur sa femme, mais il dit voici ce qui va se passer maintenant. Et cette sexualité qui était quelque chose de beau et qui glorifiait Dieu, devient parfois un abus dans l'utilisation qu'en font les hommes vis-à-vis de leurs femmes et parfois vice-versa. La femme devient, dans les yeux de certains, un objet sexuel. On voit ça dans la pornographie qui est un véritable fléau pour des hommes chrétiens et certaines femmes aussi. l'homme devient un peu animal, sujet dominé par ses désirs, comme Amnon. Et de ce fait, l'expression « balance ton porc » finalement a une certaine vérité biblique. Et cette histoire vient illustrer le point auquel notre cœur est corrompu. Cette histoire vient illustrer les conséquences de la chute de l'homme qui se détourne de Dieu. Quand on entend cette histoire, on a envie de hurler, on a envie de casser la gueule à Amnon, excusez-moi l'expression. On a envie de prendre Tamar dans nos bras pour la consoler. Et on se dit jusqu'à quand ce genre de choses? Parce que la chute appelle le troisième mot qui est la rédemption. Et nos cœurs crient, Seigneur, viens. Fais quelque chose. Et Dieu est venu en Jésus-Christ. La rédemption, c'est Dieu qui visite sa terre, c'est Dieu qui vient chercher l'homme en Jésus-Christ. Et Adam qui a failli comme image de Dieu, Jésus vient comme véritable image de Dieu, le deuxième Adam, et on le voit dans son rapport aux femmes dans l'évangile. Quand on voit Jésus avec la femme samaritaine et la façon dont il va relever cette femme qui a eu six maris. Ou cinq maris et un amant. On le voit dans son rapport avec la femme prise en adultère. On le voit dans son rapport avec la femme pécheresse qui vient lui laver les pieds, avec la femme qui a oint sa tête de parfum. Mais plus que de venir montrer l'image de l'homme véritable, tel que Dieu l'a voulu en Adam, Jésus vient pour nous racheter de nos péchés. Jésus vient jusqu'à la croix. Sur la croix, il y a trois choses qui se passent, trois choses d'une importance capitale pour nos vies, pour notre relation à Dieu et nos relations les uns avec les autres et pour notre sexualité. Premièrement, il est mort pour nous pardonner de nos péchés. Il est mort en substitut. Jésus sur la croix, c'est Adam et Ève que Dieu avait dû revêtir par le moyen d'un sacrifice. Jésus sur la croix, c'est David, l'adultère et le meurtrier repenti. Jésus sur la croix, c'est Samson, c'est Barnabas, c'est toi et moi. Barabbas, excusez-moi. Il prend notre place, il subit la peine que nous méritons. Qui aujourd'hui, ici, peut dire qu'il n'a pas convoité un jour? Jésus prend notre place, magnifique, salut en Christ. Ça, c'est la première chose qu'il fait à la croix. Deuxième chose, on n'y pense pas souvent, en tout cas dans nos milieux. Jésus porte non seulement nos péchés sur la croix, il porte aussi nos souffrances et nos douleurs. Vous avez vu ça dans Ésaïe au chapitre 53. Je le lis juste pour que vous sachiez que je ne dise pas n'importe quoi. Cette prophétie du Messie souffrant. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus sur la croix, c'est aussi Tamar. C'est aussi Tamar. Il vient goûter à l'injustice, il vient porter aussi les souffrances de ceux qui ont été méprisés, écrasés par la soif du pouvoir, de l'argent et du sexe. Il est traité injustement, fouetté, craché dessus, rejeté, abandonné, laissé seul, cloué à la croix. Il a porté nos souffrances. C'est ici l'espoir pour ceux qui sont victimes aussi. sachez que Jésus peut vous comprendre, lui victime d'injustice. Lui violé dans son corps par les clous, par la lance. J'ai dit qu'il fait trois choses sur la croix. Il est mort pour nos péchés. Il est mort en prenant nos souffrances. Et troisièmement, il nous rachète, c'est-à-dire qu'il nous libère. Et littéralement, on pourrait dire qu'il nous achète, c'est-à-dire qu'il procure l'Église qui est, devient son épouse et qui présente à Dieu de telle sorte que nous pouvons dire que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et l'apôtre Paul se sert de ce concept quand il parle d'un problème d'immoralité sexuelle dans 1 Corinthiens au chapitre 6. Il parle de prostitution, il parle d'immoralité et il dit ceci, « Sachez que vous avez été rachetés à un grand prix et que donc vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Et la conséquence, c'est glorifier donc Dieu dans votre corps, dans le contexte d'une discussion sur la sexualité. C'est-à-dire que sur la croix, Jésus, il devient mon maître. Et je ne suis plus seul maître à bord par rapport à mon corps. On entend ça beaucoup dans les actualités. C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Moi, je réponds non. Ce corps appartient aujourd'hui à Jésus-Christ. Je ne peux pas en faire ce que je veux, ni dans ce que je mange, ni dans ce que je fais avec ma sexualité. Je reviens à nos quatre mots, chute, création, chute, rédemption, il en reste un, vous vous rappelez ?
Restauration.
L'histoire n'est pas finie, chers amis. La dernière page de la Bible, ce n'est pas 2 Samuel chapitre 13, merci Seigneur. La dernière page de la Bible, c'est quoi ? C'est un mariage. C'est un mariage. C'est l'Église qui est présentée à Christ, lavée, sans tache, ni ride, dans une relation intime avec le mari idéal. Et toute larme sera essuyée. Tous les victimes d'abus en Christ ne pleureront plus ce jour-là. Et ce mariage est tellement fort qu'il n'y aura plus de mariage terrestre comme on le connaît aujourd'hui. Quelquefois, je suis un peu triste en pensant à ça. Par la grâce de Dieu, nous avons un très bon mariage avec Catherine depuis 40 ans. Dans la gloire, nous ne serons pas mariés. Mais j'ai une petite illustration qui m'aide par rapport à ça. Quand j'avais 5 ans, j'habitais la campagne canadienne. Mon père était agriculteur. Il y avait 3 maisons dans notre hameau. Et au bonheur, dans ces 3 maisons, la maison d'à côté, il y avait une petite fille qui avait mon âge. Elle avait 5 ans aussi. Je me rappelle de son prénom, c'était Denise. Et on jouait tout le temps ensemble, comme on était à la campagne, on allait dans les champs, il n'y avait aucun danger. Et puis, mon père m'apprend qu'il vend la ferme et qu'on va en ville, on va déménager. Je vais devoir quitter mes champs et quitter la petite voisine. J'étais triste, je me rappelle que j'étais vraiment triste, j'ai pleuré, c'était la première peine de cœur. Première d'une série. Aujourd'hui, je m'en fiche un peu comme de ma première chemise de Denise, je suis désolé, j'arrive plus à trouver son visage. Ce qui était tellement fort à ce moment-là a disparu dans quelque chose qui est bien plus fort, qui est le mariage que le Seigneur m'a donné avec mon épouse. Et je me dis que l'étape suivante va être tellement forte que le mariage avec mon épouse sera symbolique par rapport à ce que nous allons connaître. Nous allons connaître une plénitude. Notre cœur à tous aspire après cette plénitude. Et on pense le trouver dans le mariage. Et il y a une certaine plénitude dans le mariage, mais il n'y a pas la plénitude avec grand L et grand P. Ça, c'est pour plus tard. Il est temps de conclure quelques applications. Si vous êtes victime d'abus, le Seigneur vous aime. Et Jésus-Christ a porté sur la croix ces souffrances-là. Et un jour, elles seront oubliées. Vous avez peut-être besoin d'en parler avec quelqu'un. Ne suivez pas le conseil d'Absalom. Trouver un conseiller, une conseillère spirituelle qui peut prier avec vous. Peut-être avez-vous besoin de dénoncer la personne qui a abusé de vous. Pensez aussi aux autres victimes possibles que vous pouvez peut-être aider en dénonçant cette personne. Je sais que ce n'est pas facile et je ne mets pas de pression dans ce conseil. Peut-être avez-vous mal employé votre sexualité. Peut-être avez-vous fait de mal à quelqu'un avec votre sexualité. Sachez qu'il y a un pardon auprès de Dieu que David a trouvé. Mais ça demande de repentance. Et sachez que Jésus-Christ est mort aussi pour ce péché-là. Demandez pardon aussi à la personne que vous avez offensée. Et cherchez conseil par rapport à la suite. Peut-être avez-vous besoin d'aide, une aide professionnelle, une aide spirituelle aussi, pour voir les démarches à suivre. Peut-être avez-vous simplement pas connu le mariage ou connu un mariage difficile. Demandez aussi là à Dieu de vous consoler et de vous aider et sachez que l'espérance est là en Jésus-Christ. Je vais simplement prier. Nous te remercions, notre Dieu, de ce que ta parole parle de tout ce dont on a besoin. Et nous te remercions pour la création, pour la manière dont tu nous as fait hommes et femmes. Nous te demandons pardon pour ce que nous avons parfois fait de la sexualité. Nous te remercions pour Jésus-Christ qui est venu pour nous racheter, pour nous délivrer de nos convoitises. Et nous te remercions pour ce mariage à venir avec l'agneau qui est mort pour nous. Et nous te bénissons pour l'éternité, pour la plénitude que nous connaîtrons en toi. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent, sois leur consolateur. Je te prie pour ceux qui ont besoin de se repentir, Seigneur, par ton esprit. Viens les visiter, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous allons ensemble prendre la Sainte Cène qui, par